te, te remercie et tu me permettras de que ces remerciements ne soient pas uniquement affectifs, et que c'est en fait partie du bilan de courtoisie habituelle, ne soit, j'hésite pas à le dire, affectif. Je crois qu'effectivement, j'ai tenu à marquer mon lien avec l'Université de Provence, car j'aurai l'occasion de l'aborder au cours de cette séance. Hein, dans une mémoire historique, elle n'a de valeur que si elle a une influence forte sur votre devenir, pour que ce soit. Or, je dois dire que la région de l'Université de Provence a cette notion très forte. Par conséquent, je suis heureux de me retrouver ici, dans cette maison magnifique. Et je dois dire que, comme effectivement, comme l'a dit Robert, il se trouve que ça fait la troisième fois en un mois que, pour des raisons différentes, je suis ici et je suis frappé du dynamisme et de la variété. Depuis les colloques scientifiques, par exemple, dans les cités, celui d'il y a une quinzaine de jours, les ouvertures littéraires, mais sur un vaste public, je pense à René Char, et puis aujourd'hui, des efforts pour en quelque sorte lier la recherche à un public qui n'est pas forcément sur le sujet. Alors, donc, le sujet est un sujet imposé. Construction de soi et mémoire historique. Et dans le même jeu, je crois qu'il faut souligner, c'est ce que je dis dans la présentation, le paradoxe de lier au moins, dans un premier temps, deux phénomènes qui sont apparemment aussi éloignés l'un de l'autre. Je crois que c'est banal et je pense que ce sera évoqué en particulier par les psychologues, je crois que c'est la cinquième ou la sixième séance. D'unir la mémoire personnelle à la fabrication d'une identité. À la rigueur, et ça, on s'en rend compte beaucoup plus fortement depuis le livre célèbre de 1925 de d'Alvax, de Maurice Alvax, de lier la construction de soi et la mémoire collective. Mémoire collective qui relève beaucoup plus largement habituellement et donc tout à fait normalement d'une approche ethnologique, puisque cette mémoire collective se fait essentiellement sous la forme de coutumes, de traditions, et se fait sous la forme d'intermédiaires de la famille ou de groupes de proximité. Or, la mémoire historique renvoie globalement, même si ensuite elle est, il faut la fragmenter, à l'idée d'un groupe beaucoup plus large, généralement national, en tout cas qui se veut ayant un rapport avec la nation voulue, rêvée ou réelle, dans lequel l'institutionnel joue un rôle tout à fait important, et en particulier en France, l'institutionnel, l'école, est un instrument privilégié que sont les manuels, et dont, dans un certain nombre de cas, on ne perçoit pas l'influence, sinon comme un poids ou une contrainte dont il faut se libérer. Et j'ajoute que la situation actuelle, qui a été très bien définie par notre collègue François Hartog, le présentisme, c'est-à-dire un régime, comme on dit, d'historicité, qui nie à la fois le rapport au passé, mais aussi qui n'a pas de perspective d'avenir. Eh bien, le présentisme rend encore plus aléatoire, plus paradoxal, le fait de lier la construction de soi et la mémoire historique. Alors, vous avez compris, et c'était le sens de cette introduction, je veux évidemment, à partir de ce constat qu'il faut faire dès le départ, quand même examiner s'il y a un lien. Et si je suis présent, c'est bien évidemment parce qu'il y a un lien. Mais je voudrais élargir et répondre en fin de mon intervention, me demander si la mémoire nationale est la seule expression possible de la mémoire historique. Alors, d'abord, évidemment, on va commencer par quelques définitions. Tout à l'heure, il y a quelques secondes, j'évoquais Maurice Halbwachs. Eh bien, c'est le premier, à ma connaissance, à utiliser le terme de mémoire historique. Mais ce qui est intéressant, et on y reviendra, c'est qu'il ne l'utilise pas dans le cadre sociaux de la mémoire, c'est dans son livre dont tout le monde parle de 1925. Mais il évoque dans un livre posthume, qui n'est pas sans poser des problèmes, mais on y reviendra dans la discussion, car ce n'est pas l'objet principal, la mémoire collective, qui a été sorti à partir de ses papiers, avec une première édition assez critiquée de 1950, parce qu'on y a ajouté des titres, et avec plusieurs séries de rééditions, mais dont la seule, je crois honnêtement, en effet vraiment scientifique, c'est la plus récente, il y a une petite dizaine d'années, par Gérard Namer. Et dans cette mémoire collective, effectivement, il y a, au moins dans l'édition initiale de 50, mais après non, un chapitre bien identifié qui est intitulé « Mémoire collective et mémoire historique » et en sous-titre, mais les sous-titres, semble-t-il, ont été ajoutés par la suite. Oui, la difficulté, enfin, on va laisser ça de côté. Mémoire autobiographique et mémoire historique, leur opposition apparente. Et puis après, est ajouté le deuxième titre, la réelle interprétation. Alors, il y a d'abord dans cette mémoire collective une définition assez réductrice, mais intéressante, parce que bon, il est le premier à l'avoir parlé, de Maurice Halbwachs. Pour lui, ce sont pour l'essentiel les événements de notre temps. Très curieusement, j'y reviendrai tout à l'heure, il n'évoque pas un peu la tradition orale qu'il doit probablement rejeter, même certainement, hein, du côté soit de la religion, soit des classes sociales. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce sont des événements de notre temps qui ne sont pas des événements personnels ou familiaux, mais à large dimension nationale ou internationale. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est très intéressant par rapport au précédent, c'est que cet homme, hein, qui était, on s'en rend bien compte, comme un certain nombre de scientifiques de l'époque, extrêmement distancé par rapport à sa vie personnelle, eh bien, c'est un livre beaucoup plus personnel, hein, qui a été rédigé dans les années terribles, hein, pour lui socialiste, mais aussi pour lui d'origine juive, hein, c'est-à-dire les années 33-40. Et là, on voit réaffleurer toute une série de souvenirs personnels. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un livre qui est tout à fait émouvant de ce point de vue-là. Et là, il donne comme exemple, là, son premier souvenir conscient d'enfant, c'est l'enterrement de Victor Hugo. Il était né en 1877, il appartenait à une bourgeoisie républicaine, et évidemment, vous voyez, son père amène à l'enterrement de Victor Hugo, il est vraiment un jeune enfant. Hein. Et ce qui montre que dès le départ, il a parfaitement compris que la mémoire historique, certes, si elle est politique, n'est pas totalement politique, puisque l'événement qu'il relate est un événement mixte. Et le deuxième événement qu'il donne comme exemple, ça pourrait paraître anecdotique. Il voit dans un hôtel près de son domicile, le domicile de ses parents, des Russes sibériens avec des grandes toques. Alors ces Russes sibériens ont été attaqués par des loups enragés, et ils viennent se faire vacciner par Pasteur. Et donc ce sont des histoires, vous voyez, par rapport à l'histoire des sciences. Je pense que nos voix ne sont pas surpris, parce que à chaque fois, cet homme, encore une fois, très distancié, a une vision d'image. C'est une série d'images qu'il présente. Et évidemment, je comprends parfaitement, et je suis vraiment heureux qu'ici, il n'y a pas longtemps, tout à fait autorisé, nous sommes dans les chantiers ouverts par les images, et c'est une chose qui me frappe, et qui me frappe de plus en plus, c'est le lien très fort entre la mémoire et la série d'images. J'avais vu dans ma première enquête sur la légende des Camisards, mais dans l'enquête que nous avons faite par la suite sur les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette série d'images qui viennent à l'esprit, d'où évidemment l'importance, je prêche un certain nombre, même pas convertis depuis longtemps, de la télévision et des reconstitutions historiques. De façon aussi très communicative, il cite longuement Stendhal, et dans un livre peut-être un peu oublié aujourd'hui, qui est La vie de Henri Brulard, et qui pour un historien devrait être relu, sinon lu, pour des jeunes étudiants, parce que Stendhal évoque des souvenirs extrêmement forts de la Révolution française à Grenoble, et en particulier la journée des tuiles de Vivi. Et alors, la conclusion qu'il tire, c'est que cette histoire n'est pas extérieure à l'enfant et ne se confond pas avec l'apprentissage abstrait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il la séparera après très clairement de l'histoire que font ses collègues, de l'histoire scientifique. Et que cette histoire est doublement vivante de deux façons. Et d'une part, c'est évident, c'est l'époque, par l'intermédiaire de domestiques qui lui apprennent une autre vision. C'est-à-dire que je trouve ça très fort, surtout, encore une fois, dans les années 30-40, d'avoir cette idée des rapports. C'est l'histoire de Proust et de ses servantes qu'il reprend. Et il a été d'ailleurs lecteur, je vais vous dire, de la recherche du temps perdu. Et puis, deuxième point, par l'intermédiaire des autres générations. Et en particulier, là encore, évidemment, on retrouve les grands-parents, mais ces grands-parents lui permettent de saisir, d'une certaine façon, un autre climat, une autre sensibilité. Et alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, et c'est un peu l'ambiguïté de cette mémoire historique, après nous avoir montré que c'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer de la construction de soi, de cette façon. Brusquement, on retrouve l'Alvax, j'allais dire, entre guillemets, scientifique. Il dit, finalement, la conclusion fait qu'il y a une opposition finale entre mémoire collective et histoire. Pourquoi, dit-il? Parce que l'histoire, c'est un tableau d'événements, la mémoire collective, c'est un foyer de tradition. Et parce que, et je vous lis carrément ces textes, l'histoire sans doute est le recueil des faits qui ont occupé la plus grande place en mémoire des hommes, mais lu dans les livres enseignés et appris dans les écoles, les événements passés sont choisis, rapprochés et classés, suivant des nécessités ou des règles, qui ne s'imposait pas au cercle d'hommes, qui en ont longtemps gardé au dépôt vivant. Alors là, il y a une phrase extraordinaire, et qui pose des problèmes. Je ne pense pas que c'était tellement étudié jusqu'à présent, mais ça vaut la peine que historiens et sociologues fassent ensemble des études, parce que, sur ce genre de phrase, c'est qu'en général, écrit Alvax, l'histoire ne commence qu'au point où finit la tradition, moment où s'éteint, où se décompose la mémoire sociale. Tant qu'un souvenir subsiste, il est inutile de le fixer par écrit, ni même de le fixer purement et simplement. L'histoire veut serrer de près le détail des faits, devient érudite, et l'érudition n'est le fait que d'une toute petite minorité. Donc, évidemment, nous sommes très loin de gens qui, à la même époque, y compris de son ami, particulièrement des annales, qui disent que l'histoire ne s'écrit qu'en fonction du présent, et que même quand on relit un événement historique, on le relit avec ses propres lunettes. Tout ça disparaît Et là, c'est d'autant plus surprenant qu'il a vécu lui-même un événement décisif qui est la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale où il a rallié d'ailleurs le camp des socialistes, qui étaient socialistes d'Union nationale. Et il sait qu'au même moment, des combattants comme lui qui ont été universitaires font de l'histoire de la Première Guerre mondiale, ne serait-ce que Pierre Renouvin. Il a une conception de l'histoire qui est finalement une conception de l'histoire qui est déjà en train d'être dépassée. Comme s'il n'est aucun contact, et pourtant il en a avec les annales. Si bien qu'après avoir montré tout l'intérêt qu'il y a à lire une mémoire collective, sans compter que c'est un livre, je dis, où il y a un lien avec l'homme qui est très très fort. On est frappé des trois limites de cette conception. Il ne parle pas de l'influence que peut avoir, de façon explicite, cette mémoire historique sur la construction de soi. Ce qui est d'autant plus curieux qu'il cite Stendhal. Or, pour Stendhal, la vision de la Révolution française, la journée des Tuiles en 88, ça lui permet, bon, évidemment, une exagération, puisqu'il n'avait pas ce sentiment, mais ça lui permet de montrer à quel point il s'oppose à ses parents. Et à quel point c'est Stendhal, c'est le républicain, se réjouissant de la mort de Louis XVI. Hein. Et il aime à citer cette phrase qu'il aurait entendue d'une femme qui parcourt les rues et qui dit « Je suis révorté ». Je suis révolté, je suis révorté, il a voulu de révolter, et évidemment, autour de lui, sa famille, qui est, enfin, pas légitime, ça ne se passe pas à dire en ce moment, mais à cette époque-là, mais qui, je veux dire, est tout à fait effrayé par ce qui est en train de se passer, il prend en quelque sorte pour lui, il fait la symbiose avec cette femme dans la rue. Donc, il donne un magnifique exemple, d'une mémoire historique qui aide à la construction de soi, et ensuite il conclut en disant, en n'en parlant pratiquement pas. La deuxième limite, il n'évoque pas du tout ce qui est antérieur. Cette représentation du passé, on l'a par ses lectures et l'école, mais ça ne fait pas partie de la mémoire historique. Sauf quand ça a été vécu par les parents ou les grands-parents. Et en fait, si on veut voir une mémoire historique qui est antérieure au temps de la personne, il faut se référer aux cadres sociaux de la mémoire, mais à propos des classes sociales, ou à propos de la religion. Et là, mais il n'appelle pas ça mémoire historique. Et enfin, troisième limite, et ça je veux dire qu'on a tous un peu tendance à la pratiquer, il postule que tout le monde a une mémoire historique. Or, et je crois que c'est la première réflexion, alors personnelle, que je voudrais faire sur le sujet, je crois qu'il y a un premier critère, et qui, pour un historien, il y a plusieurs historiens de salle, est assez traumatisant, mais les éthologues ne sont pas surpris, c'est que tout le monde n'a pas de mémoire historique. Et qu'il y a même un premier grand critère entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Alors, je vais m'expliquer sur cette première idée. Je me rappelle le premier petit livre que j'ai eu l'occasion de présenter, tout à fait normalement oublié, c'était Robert Mandot qui m'avait demandé, de faire un petit livre pour sa collection 10-18, qui dirigeait la secteur historique, il m'avait dit, vous pourriez en prendre un journal d'un bourgeois. Alors, qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais choisi, j'étais à ce moment-là passionné par le 16e siècle, Et j'avais dit, je vais prendre un bourgeois de Paris, première moitié du XVIe siècle, c'est formidable. J'avais déjà, dans la famille mixte, catholique et protestant, il y avait déjà des vues protestantistes, il y avait les grandes découvertes, il y avait la Renaissance. Je me suis dit, grâce à cela, je vais, c'est un bourgeois de Paris, appartenant à un certain niveau social, puisqu'il savait non seulement lire et écrire, mais qui est capable de rédiger, je vais pouvoir avoir une image de la manière dont les personnes du temps voyaient les événements, la présentation qu'il y avait des événements. Et, alors j'avais proposé ça à Robert Mondeau, mais il dit très très bien, bon, l'affaire était tellement engagée que je n'ai pas pu revenir en arrière, parce que j'ai été effroyablement déçu par ce journal de Versoris, parce qu'il n'était question que de questions climatiques, que de problèmes de famille, hein, que d'enfants dont ça comportait tout à fait la tête d'Ariès, hein, dont il signalait régulièrement la mort sans que ça lui soulève le moindre ressentiment, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à travers tout ce récit, l'événement qu'on pourrait cataloguer de proprement historique était très réduit. Et simplement comme si d'événements en rapport avec les faits divers entre l'exécution, hein, d'un hérétique. Mais c'est uniquement par le biais d'exécution et par le pas par tout le biais de ce que cela signifiait. Et puis, après, dans l'intervalle, je me suis aperçu que s'il y avait des gens qui avaient une mémoire historique, j'y reviendrai dans quelques instants, mais l'enquête orale, et surtout ceux, il y en a un certain nombre ici qui l'ont pratiqué, savent que c'est aussi souvent extrêmement décapant. Et je me rappelle toute une entreprise menée par l'étudiant Dan Roche, hein, sur, Jean-Claude s'en souvient, sur le souvenir de la période des années 30, chez un certain nombre de Marseillais, Marseillaises, ou dire plus largement, de Provençaux et Provençales. Et l'idée d'Anne Roche, qui faisait par ailleurs faire à ses étudiants des travaux sur les romans du Front populaire, c'est évidemment de montrer, d'une part, les rapports écrit-oral, langue orale, langue écrite, et puis, justement, le passage, si vous voulez, de l'autobiographie complètement mise en forme avec l'enquête orale, le récit de vie provoqué. Et alors, pour un certain nombre d'étudiants littéraires qui avaient passé leur année à d'une part avoir des cours d'histoire sur les années 30, ensuite à lire les romans, là aussi, ils ont découvert, comme moi, quelques années, avant, que pour beaucoup de Marseillais, eh bien, les années 30, c'était pas Front populaire. Alors qu'on sait que le Front populaire a joué un grand rôle, et que la plupart des événements historiques n'avaient laissé strictement aucune trace. Et alors, ça a traumatisé tellement les étudiants que, contrairement à tous les conseils qu'on leur avait donnés, hein, ils posaient des questions extrêmement directives. Et alors, en particulier, un épisode célèbre, enfin, entre nous, bien entendu, hein, c'était un malheureux pêcheur de l'Estac, hein, à qui il demandait: mais alors, Francis, qu'est-ce qui s'est passé? Le malheureux, de plus en plus décontenancé, alors surtout qu'il y a le fameux phénomène qu'on connaît bien, vous voyez, du différentiel culturel. Alors, brusquement, il y a eu une illumination, il y a eu une très belle pêche. Bon, alors évidemment, vous voyez un certain nombre de gens qui vont gloser sur l'idée, hein, il y a eu une très belle pêche. Hein. Ce qui est, j'allais dire, d'intéressant, c'est qu'au même moment, il y a, mais de façon, j'allais dire, plus systématique, et j'ose dire encore que c'est intéressant, même du point de vue scientifique, une de nos collègues, Anne-Marie Thiès, qui a pas mal travaillé sur, en particulier, le problème du régionalisme en Europe au XIXe siècle, mais qui avant avait fait une enquête dans la région des ouvriers agricoles, hein, du bassin parisien, hein, au sud de Paris. Et c'était un endroit où on savait par les sources qu'au moment du Front populaire, y compris la zone rurale, il y avait des mouvements sociaux assez durs parmi les ouvriers. Or, il n'y en avait strictement aucun souvenir. Et alors, là encore, ça, c'était très frappant, la différence entre, je vais dire, la grande majorité des faits qui s'étaient passés et puis le silence général. J'ai envie aussi d'évoquer une autre expérience qui avait été pour nous pleine d'enseignements, c'était les enquêtes que mon épouse, Geneviève Joutard, qui était à ce moment-là professeur à Aubagne, avait fait faire à ses élèves, dans les années 80, sur Aubagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, cette brise, ça correspondait aux années 80, c'est-à-dire que les gens interrogeaient leur grand-mère et leur grand-père ou des personnes de cette génération. Et là, on voyait extrêmement clairement s'affirmer deux groupes. Le groupe le plus important et le groupe qui aurait pu dire comme Sieyès, j'ai vécu. C'est-à-dire que les événements qui ont marqué la région, eh bien, n'avaient pas laissé une trace très forte, sauf un point qui était réel, la faim, hein, le fait de l'alimentation, ou les anecdotes. Mais vous allez voir à quel point, vous voyez, publier ces anecdotes peuvent, vous voyez, entraîner des tas de problèmes et de difficultés. Par exemple, dans un petit village, hein, de la banlieue, enfin tout près de Bagne, un officier qui s'était pris d'affection pour un enfant, cet enfant était mort, et l'officier avait fait rendre, enfin, avait fait, disons, rendre les honneurs à cet enfant, et la conclusion c'était, ce fut un moment extraordinaire. Alors vous voyez ce genre d'événement, hein, présenté, hein, comme ça, et d'autres événements d'ailleurs, tout aussi, alors encore plus, celui-là encore est déjà très difficile, mais l'autre événement où de trois côtés différents, on, des élèves avaient entendu dire par leur grand-père que les troupes marocaines, les Goumiers, avaient défilé sur la canière avec les oreilles des gens qu'ils avaient tués accrochés à leurs poignards. Et alors, ce qui avait d'étonnant, c'est que quand même les élèves se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème. Hein, que même si, entre si vous pouvez se retoucher mal à part, évidemment, puis c'était un grand mythe. Hein, mais que, si ça avait été vrai, ça peut être vrai, le problème n'est pas là. Mais on n'y a pas laissé de filer sur la canière. Hein, mais ça ne fait rien lorsque, là encore, les gens posaient la question avec beaucoup de force. J'en ai dit, mais si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc, à partir de là, vous voyez, on s'aperçoit que c'est soit des anecdotes, soit des choses, vous voyez, qui relèvent du mythe, de la légende. Ou alors, oui, il y avait des cas minoritaires qui, eux, avaient une mémoire historique très forte, mais c'était extrêmement simple. C'était une déportée juive, et c'était des résistants. Qui, comme chacun sait, est quand même un phénomène limité. C'est-à-dire que, et c'était, vous voyez, c'est dans les années 80 par rapport à 44. Alors, bien entendu, c'était avant l'esprit des commémorations. Je suis absolument certain qu'aujourd'hui, hein, on entendrait un discours convenu, grâce en particulier aux reconstitutions, grâce à la télé qui est encore plus répandue aujourd'hui. Mais, je crois que c'est d'abord une première chose, voyez, dont il faut prendre conscience, c'est ce critère et qu'on pourrait affiner de plus en plus, de façon de plus en plus précise. Évidemment, en sens inverse, j'ai une expérience radicalement différente, et dans le Colin qui est dans la salle, là aussi, c'est évidemment le modèle Cévenol. Une tradition orale transmise dès dès la naissance, j'ai sucé. Cela, dans le lait de ma mère, l'expression m'a été dite dès le premier entretien que j'ai eu en 67. Et je dirais simplement, je ne vais pas tenir simplement, parce que je n'ai pas beaucoup insisté, parce qu'on en a pas mal parlé dans d'autres circonstances. Si vous posiez la question à un paysan d'ici, qu'est-ce qu'on fait des camisards? Il vous dirait, mais oui, certainement n'importe qui ne vous dira pas la date, mais vous direz, ils ont résisté pour défendre leur temps, pour défendre leur foi, et des gens qui n'ont jamais lu, mais qui l'ont entendu plusieurs fois, ils l'ont sucé du lait de leur mère. Et Jean-Noël Belin se rappelle, sa permission de l'épisode, il l'a dit dans un de ses livres, il venait l'interroger longuement sur l'économie ancienne du pays, et la personne lui dit, vous avez encore des questions à me poser. Jean-Noël Belin dit, j'aimerais bien que vous parliez des camisards. Et le paysan répond, eh bien la communion de pensée joue, parce que je voulais vous dire, si vous n'avez pas de questions à me faire, je ne veux pas que vous partiez sans que nous parlions d'une certaine chose. Je crois qu'on voit bien l'opposition absolue, vous voyez, d'une histoire prégnante et qui, en quelque sorte, forme chacune des personnalités. Ce même paysan que j'ai interrogé au printemps 1967, certains d'entre vous connaissent la phrase parce que je l'ai citée dans une autre intervention dans cette salle quelques années, avait dit, dans le fond, cherchait à m'expliquer ce qu'étaient les camisards. Les camisards, c'était les camisards d'avant, les cathares d'avant, et les communistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire les communistes à la manière seigneur, c'est-à-dire le plus à gauche, et il établissait une sorte de véritable filiation des cathares aux communistes. Mais ce qui était intéressant, je vous ai persuadé, c'était en 67. C'était un an après la caméra explore le temps. C'est-à-dire que cette tradition orale était si vivante, et là ça rejoint un peu ce que disait Miral Max, parce que d'une part, elle était déclinée au présent, et qu'il établissait un rapport étroit entre son engagement politique et l'engagement de ses ancêtres. Et que deuxième point, cette tradition n'était pas une tradition pure orale, qu'elle était complètement nourrie et alimentée par ce qu'il regardait à la télévision ou par ce qu'il avait lu. Je ne vais pas insister beaucoup, mais on voit évidemment ce modèle Sénat qui entraîne d'une part, autour d'un événement fondateur, une recomposition de la totalité du récit historique, à savoir que dès qu'on trouve en ses veines le moindre squelette, même quand c'est préhistoire, c'est forcément un squelette camisard, que quand il y a des choses qui sont visiblement antérieures du XVIe siècle ou postérieures de la Révolution, c'est encore du camisard, et même c'est du camisard en 1906. À cette époque-là, ça fait moins d'un siècle. Qu'ensuite, cette mémoire historique entraîne des comportements politiques, le vote à gauche, quel que soit souvent le niveau social, emporte des choix très forts. On a toujours dit que l'affaire Dreyfus intéressait les bourgeois. Il y a une méditation en faveur des 4e Dreyfus à Anduze, il y a Saint-Jean-du-Gard, des conférences qui sont devenues. Et, encore une fois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les maquisards, très consciemment, expliquaient que les mêmes lieux, c'était où ils combattaient, c'était le lieu où avait combattu un camisard. Avec même des choses extraordinaires, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il avait acheté une maison parce qu'il y avait une cachette. Uniquement la raison pour laquelle il avait acheté la maison, et comme j'avais écouté, là, il n'y avait aucune raison que je mette en doute ce thème. Au-delà des protestants, c'est noble. Encore un petit peu aujourd'hui, beaucoup moins. Mais l'ensemble des protestants français, j'allais dire, de l'intérieur, passe l'Alsace, qui n'ont pas connu la même histoire, ont une mémoire historique extrêmement forte. symbolisé même par le terme dont ils aiment s'approprier, hein, le terme de huguenot, référence à une illumination du 7e siècle. Et on s'aperçoit que dans les écoles du dimanche, et plus largement le catéchisme, on faisait à la fois du catéchisme protestant et la lecture de la Bible, mais en même temps, il y avait des petits livres un peu à la manière du Lavis sur l'histoire du Notre. Et d'ailleurs, les gens qui présentent ces petits livres expliquent qu'à côté du 10e siècle, de l'amour de la France, il faut qu'il y ait l'amour des huguenots, l'amour du protestantisme français. Je pense que cette mémoire historique, mais dans le cas précis des Cénobles, est étendue à l'ensemble des protestants français en se réappropriant, l'ensemble Cénobles. Et on s'aperçoit, et c'est ce qui est très intéressant, que c'est un phénomène de très longue durée. Il y a une thèse qui vient d'être publiée d'une jeune chercheuse d'origine aixoise, d'ailleurs, qui a fait son mémoire de maîtrise à Aix, Valérie Sotocasa, les anciens s'en rappellent peut-être, qui a étudié tout le phénomène protestants au XVIIe et au XVIIIe siècle, en partant, c'était spécialiste au départ de l'histoire de la Révolution française, donc en partant des affrontements catholiques et protestants au XVIIIe siècle. Et elle a découvert un certain nombre de textes extrêmement précis qui montrent que la conscience d'être dans une lignée est extrêmement forte, hein, XVIIIe siècle. Et que, en particulier les Camisards évidemment, mais aussi les guerres de Rohan. Et elle a fait la preuve que ces phénomènes de mémoire, ce ne sont pas des phénomènes du XXe siècle, mais ce sont des phénomènes qui, en quelque sorte, entraînent une conscience à la fois personnelle et collective beaucoup plus large. Il y a évidemment, je vais pas tout développer, dans le sens inverse, le cas de la Vendée. Sauf que dans le cas de la Vendée, par rapport au Sénat, il y a une différence intéressante dans la constitution, entre guillemets, la tradition orale, construction de soi. Les Sénats n'ont aucun scrupule à utiliser l'écrit. Et ils jonglent entre l'écrit et l'oral sans problème. Alors que même si ce n'est pas toujours exact, les Vendéens expliquent clairement que l'écrit, ce sont les républicains et donc les adversaires, et que l'oral, c'est eux. Et à partir de là, donc, ils n'attribuent aucune valeur à l'écrit, sauf l'oral en écrit, c'est-à-dire ce qu'ils ont recueilli à eux-mêmes, et qui sont ensuite, bien entendu, publiés, et qui connaissent un gros succès. Le problème, d'ailleurs, de cette tradition orale chez les Vendéens se retrouve exactement identiquement chez les catholiques sénoles. J'ai dit bien les catholiques sénoles, pas ceux qui sont de la périphérie. Et en particulier, et là j'ai fini par faire quand même des questions extrêmement, je veux dire, directives, quand on m'a raconté des inventaires, bien entendu, de la loi de 1905, dont nous commémorons le centenaire cette année, les inventaires de 1906, donc les gens, les grands-parents étaient, certains d'entre eux étaient vivants, hein, quand j'ai fait mes enquêtes, ils m'ont affirmé que ça se passait au temps des Camisards. J'ai déjà, attention, hein, des gens qui avaient déjà un niveau culturel, entre guillemets, d'écrit, assez élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autant les Vendéens catholiques, mais les catholiques sénoles ont une tradition orale inversée dans celle des protestants, mais ceux qui ont vécu la même histoire, mais à la périphérie, dans une zone où ils étaient majoritaires, ceux-là n'ont plus de mémoire historique. Alors là, il y a un exemple que connaît bien Jean-Nicolas, et d'autres, il y a des études qui ont été faites. C'est le mont Lozère, principale montagne de nos régions sénoles, dans lequel il y a un versant catholique, et puis vous franchissez le col, et vous allez du côté tous les gens qui ont fait le voyage comme espèce d'expérience, hein, pour commencer par Stevenson lui-même, un siècle plus tard par une personne qui a fait le même voyage, quand vous arrivez du côté protestant, on vous raconte des histoires de Calvin. Et quand vous restez du côté catholique, on vous raconte des histoires de nous. Alors ça veut dire que les Camusards, comme je vous le montrer, ne racontent pas aussi des Camusards. Les histoires de Camusards ne racontent pas des histoires de loups. Mais il y a vraiment une différence extrêmement forte là-dessus entre les deux versants. Et on voit cette sorte de sensibilité aux mémoires historiques se répercuter même ailleurs sur des événements qui ne sont pas proprement identifiés comme protestants. Et là, je pense à l'enquête menée par deux étudiants avec soi, qui maintenant sont les courageux éditeurs de Créafis, une maison d'édition qui, je crois que nous, historiens, joue un rôle relativement important, et Pierre Gonin et Pierre Robert-Champ avaient fait ensemble une thèse, malheureusement jamais publiée, Jean-Claude Bouvier, la comédien, où ils avaient fait des enquêtes sur le souvenir du 2 décembre dans la Drôme. Du coup d'État du 2 décembre, pas Toscanis, évidemment. Du coup d'État du 2 décembre, et là, il y a une géographie de la mémoire d'ordre religieux tout à fait étonnante. Les protestants se souviennent toujours, même quand c'est une branche latérale, qu'ils ont eu un ancêtre qui était insurgé, et les catholiques jamais, pratiquement jamais. Y compris comme les catholiques ont vraiment été des victimes fortes, hein, et ont passé, ont terminé pendant un certain temps dans les prisons, et obligés parfois d'émigrer ensuite en Algérie. Donc on a le sentiment, si vous voulez, que dès que vous avez une aptitude à la mémoire historique, si l'on peut dire, et mémoire historique qui est toujours en fonction du présent et qui construit pas simplement le groupe, mais la collectivité, comme une aptitude, disons, ça avale toute une série d'autres phénomènes historiques. Évidemment, la conclusion est assez facile à comprendre, c'est évidemment la nécessité d'être une minorité, d'avoir à défendre une identité, le sentiment national est presque antérieur dans le monde catholique. Pourquoi ? Parce que ne pas oublier que ce sont eux qui introduisent dans le culte la langue nationale. Et que le lien au roi chez les protestants, c'est l'un des autres, était extrêmement fort. La conclusion de cette partie-là, c'est qu'à partir du schéma que je viens d'indiquer, on voit ce qui a pu suivre au point de vue groupes qui sont dans le même cas. On pense évidemment aux Arméniens. On pense évidemment, et c'est extrêmement intéressant parce que là ça a été très très bien étudié, au cas des Juifs et de la solution finale, et je reviens à Alvax. C'est que Alvax, de culture juive, enfin de culture juive, israélite comme on disait, on parle des israélitismes, c'est-à-dire l'israélitisme, c'est une catégorie qui explique cette sorte de juifs qui, républicains, qui n'ont jamais voulu, bloqués comme ça d'ailleurs, se considérer comme de culture juive, mais d'abord comme des républicains français qui devaient totalement faire corps avec la République. Ce qu'on appelle le phénomène d'israélitisme, évidemment aujourd'hui, hein, on le reproche de la même façon d'avoir, quand on fait de l'anachronisme, trahi, entre guillemets, leur communauté. Or, Alvax, dans les. Vous pourrez relire ça, je l'ai relu à l'occasion de s'exposer. Dans les cadres sociaux de la mémoire, il y a tout un chapitre extrêmement intéressant sur la religion. Il n'y a pas une seule allusion au judaïsme. Il n'y a pas une seule allusion au judaïsme. Par contre, il n'y a pas d'ailleurs beaucoup d'allusions aux protestants. Par contre, hein, c'est là où on va évidemment, très certainement, le républicain, mais aussi inconsciemment peut-être le juif, une violence contre la violence. pour quelqu'un qui, encore une fois, partisan contre le catholicisme, hein, une sorte de, d'anti-catholicisme, bien entendu, encore une fois, j'ai caché un tout petit peu, mais le contraste est très fort. Et nous savons extrêmement bien, et il y a un très beau livre, hein, de Zakor, souviens-toi, un très beau livre qui a montré que les Juifs, avant le génocide, avant la Shoah, n'avaient aucun intérêt pour l'histoire de leur communauté. Sauf, bien entendu, l'histoire biblique. Hein. Aucun intérêt pour l'histoire de la communauté, que l'histoire de la communauté, elle est venue après. Et Sylvie Dalnaquet est aussi l'homme qui a beaucoup étudié Flavius Josèphe, hein, c'est en fonction de cette sorte d'évolution. Alors, à partir donc de cette première série d'analyses, des minorités qui ont un sens historique parce qu'elles ont besoin de ce sens historique pour défendre leur identité, et dans lequel, dans ce cas-là, vous voyez, je crois qu'on ne peut pas tellement différencier la construction de soi d'une construction du groupe. Est-ce qu'il y a d'autres cas? Et ça va être, gendarmeur, ça va être, si vous voulez, un deuxième volet qui va nous occuper maintenant. Bien, oui, il y a d'autres cas, évidemment. Et là, je ne risque pas au plaisir, vous ne connaissez peut-être pas, hein, parce que il n'est pas habituel, le dernier livre qu'a fait Maurice Agulon sur De Gaulle. Hein, histoire, symbole et mythe. Et vous voyez, certains d'entre vous sont tout à fait stupéfaits parce que, il s'en explique d'ailleurs, c'est très très intéressant parce qu'il y a aussi un côté d'égo-histoire dans ce livre. Et il passe une bonne partie de son temps à se justifier, mais pourquoi je fais un livre sur De Gaulle alors que j'appartiens à l'autre côté de la barrière, alors qu'en 58 j'ai défilé, hein, contre lui. Et je crois que c'est l'analyse la plus fine. Et justement, il a un peu la distance ethnographique que je connaisse sur la mémoire historique gaulienne. La mémoire historique gaulienne, hein, qui est bien définie, hein, par le chapitre que, quand même, je tiens à vous lire, au début du premier volume de la mémoire, La Peine. Alors, je lis De Gaulle et après, je dirai ce que vient du mot. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone des fresques, des murs comme vous, une destinée imminente exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la providence a créé pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. Mais aussi le côté positif de mon esprit me convainc que la France est réellement la France qu'au premier rang. Que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. Cette foi agrandie en même temps que moi dans le milieu où je suis. Mon père, qui était plutôt maurassien, c'est moi qui l'ai dit, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France, et il m'en a découvert l'histoire. Et là, je vous recommande vraiment cette analyse de Tagulon, parce qu'il montre très bien comment, à partir de cette tradition d'une certaine partie de l'opinion, De Gaulle y échappe un peu à cette tradition. Et il le montre à propos des dates que retient De Gaulle pour le début de la France. Et là, il y a un vrai conflit de républicains et de royalistes, hein, qu'on connaît bien quand on connaît un petit peu la mémoire historique de la France, le roman national. Les républicains, ils prennent en général Vercingétorix et les Gaulois. Hein, peuple libre qui a résisté. Et c'est pour ça que quand il y a eu le débat sur Covid, ce n'est pas innocent. Et la droite, entre guillemets, préfère dater le début de la France, qui bien historiquement est plus juste, nous le savons bien, de Clovis et du lien entre les Francs et l'Église. Et là, dans l'analyse de. Et bien entendu, il a fait la recension de tous les discours de De Gaulle. Donc je passe. Et il montre extrêmement bien que De Gaulle jongle sur les deux. Et que De Gaulle se réfère à la fois à Clovis et à Vercingétorix. Et que De Gaulle, contrairement à toute sa tradition familiale, met dans le même sac, en quelque sorte, les combattants dans deux, comme les combattants de la Première Guerre mondiale. Et c'est à partir de là, donc, qu'on peut voir, et la démonstration paraît extrêmement forte, comment il y a vraiment une construction de soi. Si on veut avoir un exemple de construction de soi par un moment historique, c'est en étudiant, et que ce n'est pas du tout du discours politique au sens classique du terme. Ça n'est pas du tout de la langue de bois. Hein. On n'est pas du tout au devoir de mémoire ou à la commémoration besogneuse hein, que dont on rabat les oreilles hein, depuis une dizaine d'années. Hein, d'ailleurs, les textes sont souvent tout à fait magnifiques. Mais alors, ce qui est intéressant, et on comprend, il ne le dit pas aussi nettement que cela à Gulot, c'est qu'en réalité, d'une certaine façon, ce roman national, mais avec des différences, c'est le roman aussi de la gauche républicaine. C'est au dernier colloque organisé ici, dans la salle du BIF, hein, sur les préliminaires de la laïcité, ceux qui ont assisté se rappellent peut-être que Gérard Chastagnaret et Michel Bobel se sont tous les deux congratulés en expliquant qu'ils étaient tous les deux nés dans une école. Et je crois que ça va très très loin, ça, parce qu'ils ne sont pas les seuls à être nés dans une école, c'est-à-dire être les fils d'instituteurs, fils ou petits-fils d'instituteurs. Et alors, je rapprocherai volontiers, si vous voulez, ce texte d'un deuxième texte. Le texte d'Alain Decaux, qui est exactement, un peu plus âgé, hein, dans la position d'Agulon et de Michel Bovel. Voici ce qu'écrit Alain Decaux. Mon grand-père se voulait un maître républicain. Comme tel, il avait passé sa vie à faire aimer la France à quelques milliers de petits garçons. Car la France était belle, elle prenait sa source très loin dans les forêts peuplées des druides. Les républicains, donc, c'est Vercingétorix. Elle avait mis en but à tant de combattants d'assaut de viol que c'était merveille par la volonté continue de quelques-uns et le courage de tous qu'elle ait pu grandir, subsister, devenir ce qu'elle était. Mon grand-père, le cité républicain, ne craignait pas d'évoquer ses rois qui patiemment avaient augmenté l'héritage. Sur la carte accrochée à côté du tableau noir, il évoquait ce qu'était le premier royaume de France, quelques kilomètres carrés autour de Paris. De conquête en agrandissement, le royaume devenait la France que les Jacobins de 93, héritiers paradoxaux du roi qu'ils avaient guillotiné, défendaient avec le même acharnement que les Capétiens. Plusieurs fois frappés au long des siècles, envahis et humiliés, cette France qui peignait mon grand-père s'était relevée toujours. Comment n'auriez-vous pas aimé? On comprend très bien, hein, comment est-ce que finalement il y a une sorte de dialogue. Et ne prenons pas ça à la légère. Hein. Ces fils et petits-fils instituteurs, ce sont eux qui n'ont pas été reçus en général à Normal, la rue d'une, ils ont été reçus à Saint-Cloud. Et si vous regardez, même dans ma génération, le nombre d'historiens issus, ou un peu plus jeunes que moi, de Saint-Cloud, pensons à Roche, pensons à Michel Bobel, pensons à Roger Chartier, et il y en a bien entendu d'autres, et ces historiens, de façon très intéressante, on choisit le 18e siècle leur commission, l'un ou l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai pas interrogé, j'ai pas fait de l'interrogation systématique, bien entendu, de Michel Bovel, mais je suis absolument certain qu'il y a là une conception de soi à partir d'une histoire, voyez, qui est une histoire du groupe instituteur. Je ne suis pas sûr qu'on fait l'enquête dans le monde ouvrier non militant, ou dans les paysans non militants, on ait trouvé cette construction hein, aussi organisée. Et je regrette un petit peu d'ailleurs, parce que c'est un univers qui est en train de disparaître totalement, dont les jeunes n'ont pas du tout idée. Mais si je peux me permettre une suggestion, je crois que vos étudiants, vous-même, il y a des étudiants dans la salle, fassiez une enquête plus systématiquement sur le rôle qu'ont joué les fils ou petits-fils d'instituteurs dans la constitution, non seulement de l'école, ça c'est presque banal, mais dans la constitution dans l'échiveau français. On s'intéresse encore une fois à la rue du Maine, mais il y a des tas de choses faites sur la rue du Maine. Je regrette énormément qu'il n'y ait pas beaucoup de choses faites de ce point de vue-là, hein, sur l'école normale et sur l'école normale de Saint-Denis. Et donc, c'est bien évident qu'on voit donc s'esquisser, mais là encore, ce n'est pas la majorité, mais des groupes qui, à côté, vous voyez, ce ne sont plus des groupes religieux, mais qui ont développé, alors ces groupes, c'est face à face, évidemment, hein, ce groupe des traditionnalistes, petits hobereaux, qui donnaient en général des chartistes, plus maintenant. Et puis, le groupe des instituteurs qui donnaient à la deuxième génération, hein, des historiens. Et, bien entendu, qui ont donc fait que cette mémoire historique, qui d'une certaine façon peut apparaître comme très forte en France, doit, je crois, cette force en grande partie à l'existence de ces groupes, hein, et donc, bien entendu, à des constructions individuelles. Mais, et c'est ça évidemment l'ambiguïté française, je crois que cette force de la mémoire historique, qu'on trouve dans les engagements politiques, c'est aussi une caractéristique qui est liée à la constitution de l'identité française. Qui, je rappelle, condition d'idée française, c'est à la fois l'État, mais aussi une construction par l'État et par les historiographes du roi, hein, d'un véritable roman national qui commence à s'établir dès la fin du Moyen-Âge, et roman national dans laquelle, enfin, j'ai pas le temps d'en parler, les guerres de religion ont joué un rôle tout à fait fondamental. Cette force du mémoire historique, vous voyez, qui est à la fois la rencontre de ces groupes-là, mais aussi le rôle de l'État, je crois qu'on l'a saisi dans la plupart des enquêtes de l'antique sociologie plus classique. Avec Jean Le Cuir, nous avons mené à plusieurs reprises des sondages sur les héros de l'histoire de France. Eh bien, on est très frappé du fait que, premièrement, il y a un panthéon national, hein, qui est transcourant, et transpolitique, et transreligieux. Par exemple, personnages comme Pasteur, dans les premiers sondages, Marie Curie aujourd'hui, pour diverses raisons, réunit l'unanimité. Mais ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un panthéon différencié, droite-gauche, et même à l'intérieur de ce panthéon, on peut distinguer un panthéon socialiste et un panthéon communiste. Alors, nous, à cette heure-ci, on n'a pas le temps de le développer, et ça veut dire quoi, ça? Et ça veut dire que nos mémoires politiques, et je crois que c'est une différence assez forte vis-à-vis de pays étrangers, est très appuyée sur l'histoire, et une histoire non pas conçue comme le présentait Albax, d'érudition, mais une histoire d'image, et d'image au sens presque réel du terme, physique du terme, hein, et bien entendu de mythologie. Et on a fait, après ces sondages de type français, on s'est intéressé à des sondages de type européen, c'est-à-dire qu'on a fait avec Jean-Noël Jamenet une grande enquête sur « Y existe-t-il un panthéon européen ?» Ça, c'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui, mais c'était quand même un phénomène intéressant. Or, qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, on a interrogé 6 pays, hein, avec à chaque fois, selon le principe habituel des méthodes des sociologues de quota. On s'est aperçu que les Français étaient ceux, y compris sur les questions européennes, qui répondaient le plus volontiers. Eh bien, c'est là où il y a le taux de non-réponse était le plus faible, les Allemands étaient un peu au-dessus, et deuxième point, que quand ils avaient à choisir des héros, alors que la plupart ont choisi qu'un, ils en étaient 2 ou 3. C'est là où on voyait cette sorte de passion, bien, de l'histoire, et que nous rejouons un peu à chaque période, jusqu'à quand ? Peut-être moins aujourd'hui, question. Mais je donnerai un seul exemple, et j'y résiste pas parce qu'il y a des acteurs dans cette salle. En 1968, eh bien, on a rejoué tout le 19e siècle. Nora l'avait dit, mais on l'a joué pas plus loin qu'à Marseille, et certaines verront que je fais allusion, au lycée Thiers, qui avec beaucoup d'humour, a été rebaptisé lycée commune de Paris. Et ces phénomènes, oui, c'était parti en quelque sorte des traditions orales, si on peut dire, hein, ça a été marqué dans les pensées arabes, mais je ne pense pas qu'on s'en souvienne beaucoup. C'est quand même assez extraordinaire. Je pense, alors on dirait que c'est des intellectuels, oui et non, hein, parce qu'il fallait quand même le faire, bien entendu, il y avait tous les attributs, et j'avais assisté aux délibérations, puisque j'étais à cheval à ce moment-là entre Thiers et le lycée Minier, qui est un lycée, et c'était assez étonnant la manière dont cette 1968 avait été en quelque sorte identifié comme étant la reproduction du 19e siècle. Alors, ce qui est le plus extraordinaire d'ailleurs, c'est que jusqu'ici, ce sont des cas de mémoire très identifiés, hein, qui font référence à des vrais événements, entre guillemets, historiques. Mais je crois que la passion mémorielle pour l'histoire de la part des Français va beaucoup plus loin encore. Et sans avoir le temps maintenant de développer, j'évoquerai le très beau travail qui s'était fait en partie ici, de Karine Basset, qui va heureusement paraître, sur le légendaire Sarrazin. Et la thèse de Karine Basset, c'est que ça ne relève pas simplement du folklore à l'anecdote, que là d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est des choix personnels de gens qui se trouvent des ancêtres sarrasins, qui se croient être descendants de Sarrazin. Se croire descendant de Sarrazin dans les années 90, et compte tenu du climat ambiant, j'ai envie de dire familièrement, il faut le faire. Et à travers cette filiation, il y a d'une certaine façon, et je trouve que la démonstration est assez juste, une sorte de contre-roman national, de se présenter en quelque sorte en opposition. Le temps s'est écoulé, et donc très vite, je vais y terminer là-dessus, répondre à la dernière question. La mémoire nationale était la seule expression de mémoire historique qu'il y a. Vous l'avez compris, même si en France, nous avons vraiment un magnifique exemple d'une vraie mémoire nationale qui n'est probablement pas portée par tous les groupes, mais qui a des groupes assez, disons, stratégiquement bien situés, plus l'État, pour qu'elle ne soit pas, ne se réduise pas au rôle de l'école, et qu'elle ne se réduise pas uniquement à des influences institutionnelles. Mais, en dehors de la France, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre d'autres groupes qui réagissent par rapport à un cadre national. D'une certaine façon, même arménienne, c'est par rapport à un phénomène, disons, d'État. Je voudrais montrer qu'il y a quand même aussi d'autres cas. Et là-dessus, je ne résiste pas à l'envie quand même de vous faire part de la dernière enquête que nous avons faite avec mon épouse sur un sujet un peu à contre-courant, c'est-à-dire sur les francophiles des États-Unis. Alors, pour plein de temps qu'on a commencé notre enquête, on a dit, mais si, est-ce qu'ils existent? Vous les avez trouvés? Alors, je vous rassure tout de suite. On les a trouvés, mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéressera aujourd'hui. C'est que dans ce phénomène-là, on trouve un phénomène de mémoire historique assez prodigieux. Pas pour tous. Mais je prendrai simplement un seul groupe. Et vous ne serez pas étonné que c'est encore une fois une minorité. Les Afro-Américains. Les Afro-Américains ont un lien, une francophilie très forte. On l'a vu nous par notre enquête, mais on l'a vu récemment par les sondages qui ont été faits. Je sais que les Américains aux États-Unis, ils n'ont pas de scrupules. Hein, ils demandent des origines ethniques des gens. Et à partir de là, on s'aperçoit que la cote de la France avait évidemment pas mal chuté. Il n'y a qu'un seul groupe, outre les villes comme New York, où elle ne chute pas, ce sont les Afro-Américains. Et alors, quand on a du rêve américain, pourquoi ça? Il y a fait deux choses. Le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez, ça fait loin, la Première Guerre mondiale. Eh bien, il se rappelle encore comment ils ont été accueillis par rapport à un pays d'apartheid, pratiquement d'apartheid, en France. Et alors même, c'est relayé, bien entendu, on le l'écrit, par l'organisme, disons, de la défense des Noirs, hein, qui s'appelait Crisis, qui était, dont le rédacteur en chef était quelqu'un qui est d'origine ukrainienne, en partie d'origine ukrainienne, bien entendu, qui s'appelle Dubois. Hein. Et Dubois racontait cette histoire d'un village français qui avait d'abord reçu un détachement de Nord-Américains, et il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'en plus de ça, la ségrégation à l'intérieur de l'armée américaine faisait que dans la guerre de 14, on leur faisait surtout faire les tâches subalternes et, disons, l'intendance. On les mettait assez peu au combat. Enfin, là, c'était un détachement de Nord-Américains, et puis, tout à fait normalement, le détachement, le régiment Nord-Américain avait été déplacé, et à la place, on met des Blancs, qui sont beaucoup moins appréciés que les Noirs, par leur attitude. Vous voyez, même quand les Américains reprochent aux Français de trop arrogants, les villageois du Nord reprochaient à ces Blancs d'être arrogants. Et le maire, et ça, c'est les Américains qui le citent, aurait écrit « Renvoyez ces soldats, les soldats blancs, et donnez-nous de véritables Américains, les Américains noirs. » Eh bien, je l'ai trouvé, je ne suis pas spécialiste américaniste, ça je l'ai trouvé. Donc ça montre, si vous voulez, à quel point c'est quelque chose qui reste vivant. Bien sûr, qui est d'ailleurs connu, Joséphine Baker, le succès du Jade. La Seconde Guerre mondiale renouvelle la même chose. Et dans le monde, les journaux du monde, un des numéros du monde consacré à le souvenir de la, au moment de la commémoration de 44, hein, 44, le 60e anniversaire, ils ont raconté un certain nombre de récits d'Américains ayant débarqué en France. Et en particulier, ils citent le récit d'un musicien de jazz, John Hendricks, assez connu pour ceux qui connaissent bien le jazz, qui, à 82 ans, raconte aux journalistes qu'il arrive, il débarque quelques jours après, à la place du, quelques jours après le 6 juin, le 18 juin 44, et avec un groupe de soldats noirs, il frappe à la porte d'une ferme. Le paysan ouvre, esquisse un mouvement de recul en voyant ce gaillard noir, puis il leur serre chaleureusement la main, ça c'est le journaliste qui écrit, va déterrer dans sa cave une bouteille de Calvados et leur en serre généreusement. Et John Hendricks dit, et là j'ouvre les guillemets, cet accueil m'a ému, je me disais vive la France, je crois que c'est à cet instant que ce pays a pris une place particulière dans mon cœur. Et il poursuit, toujours en anglais, dans les mois qui ont suivi au fur et à mesure de notre progression, les gens ont continué à être formidables avec lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait lui-même, mais que cette histoire se transmet de génération en génération. Et que quand nous avons interrogé un certain nombre de Noirs, eh bien, ils nous ont raconté cette histoire qui n'est pas vécue, bien eux-mêmes. Une sorte d'image, probablement idéalisée, bien entendu, mais ben, ça en quelque chose, mais qui quand même est intéressante à noter. C'est intéressant à noter, et c'est là où nous voyons l'intérêt, vous voyez, de réfléchir à des mémoires historiques en dehors du cadre national. Le dernier exemple, et là-dessus, je m'arrêterai, j'étais un peu trop bavard, et de m'en excuser, il est encore plus d'actualité et il rejoint un peu ce que disait Alvax au début. Il insistait sur la mémoire religieuse. Nous avons étudié dans ce livre, mais à la marge, les groupes, évidemment c'est plutôt le contraire, les groupes de fondamentalisme, de néo-évangélique. Néo-évangélique à projet politique. Car les évangéliques, il y a des évangéliques qui n'ont pas de projet politique, et malheureusement, pour le monde, il y en a qui ont des projets politiques, et l'ennui, c'est qu'ils sont assez bien placés. Sans strict du terme. Or, quand on étudie ça par le biais de la mémoire historique, et c'est ce qui fait un mélange, je peux dire, explosif. C'est deux réalités. Quand on étudie le discours, il y a un discours qui est très prégnant et qui est une construction de soi. On s'aperçoit qu'il y a le mélange entre mémoire nationale, que j'ai pas eu le temps de développer, mais qui est assez comparable à celle de la mémoire française. Hein. C'est-à-dire, il y a un roman national chez, comme tous les pays à universalisme, une mémoire nationale très forte chez les Américains. Hein. Bon, c'est assez bien répertorié. Et cette mémoire nationale est réappropriée à partir de la mémoire publique. Et réappropriée à partir de thèmes messianiques et apocalyptiques. Et dans lequel l'Amérique est, je vous assure que, vous avez compris, si j'ai fait suivre, c'est que je ne participe pas du tout d'un anti-américanisme primaire, je le précise tout de suite. Donc, c'est pas du tout par anti-américanisme, mais qui est, donc on le voit très bien, donc, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, vers la fin des temps, au sens strict du terme, vers la fin des temps, c'est la raison pour laquelle il y a un lien, disons, viscéral de la part des gens qui sont souvent antisémites, vis-à-vis, y compris du grand Israël, qui considère que Sharon a laissé filer les choses. Et c'est en fonction de la lecture de l'Apocalypse. C'est-à-dire en fonction qu'à la fin des temps, et de tout, eh bien, l'annonce du retour du Messie, ça veut dire que les Juifs doivent revenir sur la terre d'Israël. Alors on me dirait, mais quel est le lien avec la mémoire historique? C'est que dans cette sorte de préparation millénaire, eh bien, l'Amérique a un rôle à jouer, à condition qu'elle redevienne chrétienne. Alors, ça peut paraître bizarre pour nous qui, au contraire, sommes très frappés dans ce pays, dans lequel c'est très laïque, mais très laïque dans le système religieux. Hein. Eh bien, il y a la notion de l'Amérique doit redevenir chrétienne. C'est-à-dire que le vieux thème de la destinée manifeste de l'Amérique, comme le destinée manifeste de la France, hein, de Gaulle, entre De Gaulle et les Américains, il n'y a pas beaucoup de différence. Eh bien, prend une force encore plus grande, puisque maintenant ça relève du plan de Dieu. Ça relève du plan de Dieu, et à partir de là, eh bien, nous avons une sorte de réinterprétation qui fascine d'ailleurs et qui inquiète un peu un certain nombre d'historiens américains de toute la période de la Révolution américaine. Voilà comme Jefferson, qui est au mieux déiste, que certains soupçonnent d'être pas très loin de Diderot. Eh bien, Jefferson devient l'ancêtre, hein, de la droite chrétienne. Et il y a toute une série de réinterprétations historiques, y compris scientifiques, je pourrais vous apporter des choses, qui va vers cette sorte de lien très fort. Alors si je termine par cet exemple que je n'évoque pas plus, c'est pour montrer que ce thème de mémoire historique et de construction de soi n'est pas un thème secondaire. Vous avez vu, je crois, par ce qui se passe dans la France, pour ce qui se passe dans l'identité protestante, mais ça va beaucoup plus loin, et que par conséquent, ça mérite d'être prolongé et d'être développé, que vous ayez eu le plaisir de vous en parler, je vous en remercie.